Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
La RDC condamne l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi-25 par l'armée rwandaise hier à Goma. Cet engin n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais, déclaration contenue dans un communiqué publié hier même. Cependant, le Rwanda dit avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion venant de la RDC et ayant violé son espace hier. Campagne de préparation des étudiants à la formation militaire. Elle sera lancée aujourd'hui à partir de Kisangani. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est arrivé pour cette fin hier au chef-lieu de la Tchopo. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi-25 par l'armée rwandaise ce 24 janvier à 17h à Goma. Cette déclaration est contenue dans un communiqué publié le même mardi dans la soirée. Selon ce communiqué, je cite, « Cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs. » Fin de citation. D'autres détails avec vous, Alain Rungmushinj.
Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée mardi matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les FARDC. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes des militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Bwito en prévision d'autres actions criminelles, indique le communiqué. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays, le gouvernement congolais appelle l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement du M23, souligne le communiqué. Toujours selon ce communiqué, bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix, le gouvernement congolais dit se réserver le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire.
En réaction, dans un bref communiqué, le gouvernement rwandais affirme avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion Sukhoi venant de la RDC et ayant violé son espace hier mardi vers 17h. Pendant ce temps, le bilan de l'attaque attribuée aux ADF la nuit de dimanche à lundi à Makungwe, localité du territoire de Beni, vient de passer de 24 à 26 civils tués par les assaillants. Selon des sources locales, quelques otages kidnappés lors de la même attaque ont été relâchés par les ADF. C'est à la suite de l'opération de poursuite menée dans la zone de Talia par la coalition des armées congolaises et ougandaises. Des détails avec Marc Marofimbo.
Deux nouveaux corps de civils ont été découverts lundi aux abords de la rivière Semuliki après une fouille menée par les FARDC et les jeunes volontaires de Makungwe, ce qui porte à 26 civils le nombre de civils tués au cours de cette attaque attribuée aux EDF. Ce mardi, 4 civils dont 3 femmes prises en otage lors de la même attaque ont été relâchés par ces rebelles, conséquence de la pression militaire exercée par la coalition FARDC-UPDF. Cependant, 6 autres civils restent encore en otage. Saïdi Balikusha, député provincial du Nord Kivu, appelle au renforcement des effectifs des FARDC dans la chefferie de Bachou, devenue la cible des attaques des EDF. Le porte-parole des opérations Sokola 1 rassure. Selon le capitaine Anthony Malouchai, des renforts sont déjà sur place pour protéger la population.
Nous pensons qu'avec les renforts qui ont été envoyés la même nuit, nous allons continuer toujours à protéger la population et surtout éliminer la menace qui pèse dans cette chefferie de Bachou. Ça fait plusieurs semaines que non seulement nous neutralisons les ADF dans cette partie du pays, mais aussi il y a ceux qui se rendent.
Jusqu'à ce mardi après-midi, les FARDC et l'UPDF était toujours à la poursuite des EDF dans la vallée de Mwalika, où des tirs à l'arme lourde et légère se faisaient toujours attendre selon nos sources dans la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Kwilu, une vingtaine d'assaillants présumés auteurs des atrocités dans le territoire de Bagata ont été présentés mardi à la population et à l'autorité provinciale à Bandunduville. Ils ont été arrêtés dans ce territoire par la police nationale congolaise et acheminés à Bandunduville grâce à un hors-bord mis à la disposition de cette dernière par la haute hiérarchie pour les opérations de pacification. La cérémonie de leur présentation a eu lieu devant le commissariat provincial de la police du Kwilu en présence d'une foule venue nombreuse y assister. Irène Boma.
Ils sont au total 27 présumés bandits, dont des femmes qui ont été présentées mardi à l'autorité provinciale de Kwilu et à la population de la ville de Bandundu. Ces inciviques ont été mis hors d'état de nuire par les policiers de l'escadron de combat implantés dans les territoires de Bagata, précisément dans le secteur de la Wamba. Certains ont été arrêtés au village Bukusu, d'autres à Falio, d'autres encore à Mayala et à Kingulukapai, des villages de Kwilu faisant frontière avec Maluku à Kinshasa et la province du Congo. Les dix malfrats sont poursuivis pour divers faits infractionnels mis à leur charge, comme le précise ici le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai.
Ces assaillants, après le conflit Tekeyaka, se sont transformés en des criminels qui ont tué plusieurs populations, ils ont violé, ils ont incendié plusieurs maisons, ils ont pillé, ils ont même mutilé quelques cadavres. Nous sommes en train d'encourager la police et nous demandons à la population de continuer à dénoncer ce genre de personnes pour que nous puissions mettre la paix dans notre territoire.
Par ailleurs, Félicien Kiwai précise que le calme règne déjà depuis un temps dans cette partie de Bagata. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le titre, la campagne de préparation des étudiants à la formation militaire sera lancée ce mercredi à partir de Kisangani par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cadre choisi, l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani. Le ministre de l'ESU, Muindo Nzangi, est arrivé pour cette fin hier au chef-lieu de la Tchopo. Devant la presse locale, il explique le but de sa mission dans cette entité. Ses propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Je suis là pour discuter avec le groupe qui va nous aider à lancer les opérations de formation à la préparation militaire des étudiants. Je crois que c'est une activité attendue partout. Mais nous avons voulu symboliquement commencer par Kisangani pour lancer officiellement cette vaste campagne de préparation de nos étudiants à une formation militaire. Nous venons aussi participer à une activité de l'IFA en Gambie qui va obtenir dans les jours qui viennent un appui pour nous aider à relancer la recherche agronomique à Yangambi. Voilà.
À l'issue de la cérémonie, le ministre Muindo Nzangi va inaugurer un imposant bâtiment construit par le comité de gestion à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Ensuite, il va visiter le site qui accueillera les étudiants pour la préparation à la formation militaire. Et puis, une délégation canadienne à Kananga pour visiter le projet mis en œuvre par avec l'UNFPA sur la santé sexuelle et productive et vision mondiale dans l'éducation en zone de conflit. Elle s'est rendue mardi dans deux hôpitaux, dont l'un à un centre de réparation des fistules. Ce programme est financé à hauteur de 5 millions de dollars américains par le Canada pour 3 ans et concerne le Kasaï central et le Sankuru. Après avoir visité certaines femmes soignées, Dag Mounou, responsable des dossiers santé à Affaires mondiales Canada, a salué le travail qui a été abattu pour aider les femmes victimes des fistules à retrouver leur dignité. Dag Mounou est au micro de François Kadima.
Nous avons vu des femmes pour lesquelles leur dignité a été retournée grâce à la réparation et nous sommes très contents et très fiers d'être associés à ce travail auprès des femmes vulnérables. Je suis vraiment impressionnée par le travail que le personnel médecin font auprès des femmes et puis les femmes ont également témoigné de leur du fait qu'elles appréciaient vraiment le travail qui a été fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment retourner leur dignité à ces femmes qui ont perdu leur dignité, qui étaient des parias dans leur communauté, qu'elles puissent réintégrer la société normalement et puissent continuer à s'épanouir.
Bonne nouvelle dans la province du Maniema. Le projet d'anticipation aux crises des inondations dans cette province, précisément dans la ville de Kindu, a été lancé hier par le ministre provincial des Affaires humanitaires et Solidarité nationale. Ce projet est mis en œuvre par le consortium Association des femmes pour la promotion et le développement endogène AFPDE et MIDEFEOPS en faveur de 400 ménages à haut risque des inondations dans la ville de Kindu. Des précisions avec Florence Kiza.
D'après les chargés de projets au sein de AFPDE, les victimes des inondations qui sont concernées par ces projets sont celles qui ont été affectées depuis le mois d'avril jusqu'à novembre 2022. Alphonse Kabala.
Comme vous le savez, dans la ville de Kindu, les inondations sont toujours fréquentes et nous avions juste développé un plan de contingence dans cette ville dans le cadre des inondations. Et ce plan nous a juste montré qu'il y a 7 quartiers inondables et parmi lesquels 3 quartiers sont à haut risque des inondations. Et ce sont ces 3 quartiers là qui nous concerne. Nous sommes venus juste apporter une assistance dans le cadre des actions d'anticipation et de relèvement communautaire en faveur des 400 ménages.
Un souffle de soulagement pour les relais humanitaires qui attendent la réalisation de ces projets. François Milabio, le point focal.
C'est un souffle de soulagement d'abord parce qu'on a entendu ça minime que ça soit, mais ça soulage un peu parce qu'il y a tant de victimes. Comme on le dit en français, un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Ces projets de 3 mois est financé par Stat Network. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, l'importation de tous les véhicules et matériels roulants d'occasion sera dorénavant orientée vers le port international de Boma, qui pour le moment est le seul disposant d'infrastructures adéquates pour le contrôle technique des véhicules. C'est le gouverneur du Congo central qui en a décidé ainsi dans un arrêté signé le 23 janvier 2023. L'objectif est non seulement de redresser l'économie de la ville de Boma, mais également de répondre à l'appel du président de la République lancé à la 69e réunion du Conseil des ministres du 16 septembre 2022, consistant à la mise en place des stratégies pour le renforcement de la sécurité routière, des routes nationales et de la lutte contre les accidents de circulation sur la voie publique. Cette mesure est vivement saluée par la société civile de Boma qui qualifie de réponse à l'une de leurs revendications. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Grâce à cet arrêté portant obligation des contrôles techniques des véhicules et matériels roulants d'occasion importés via le Congo central, l'économie de la ville de Boma qui est en berne pourra se redresser. Boma a cet avantage pour le moment car il est le seul port à avoir le monopole d'effectuer les contrôles techniques sur les engins roulants grâce aux infrastructures adéquates dont il dispose. Cette mesure est un ouf de soulagement pour les habitants de Boma qui ont toujours réclamé l'exclusivité du déchargement des véhicules d'occasion. Apollinaire Sokangimbi, coordonnateur de la société civile.
Cet arrêté est la décision attendue par la majorité et tous les Bomatraciens. Il y a eu l'arrêt des transactions portières dans la ville de Boma. Et cela a eu des incidences graves, même au niveau social. Parce que l'argent ne circule plus dans la ville de Boma.
Cette décision gouvernementale vise aussi à réduire les taux élevés des accidents et des mortalités dus au mauvais état technique et à la défectuosité de certains engins roulants importés circulant dans la province. Pour rappel, en 2003, feu gouverneur Tsassadi Toumba avait conféré au port international de Boma l'exclusivité du déchargement des véhicules d'occasion en vue d'équilibrer l'économie entre les villes de Matadi et Boma. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Et nous poursuivons avec la série de reportages sur la minière de Bakwanga Miba. Le plan de relance de cette entreprise a été validé le vendredi 6 janvier 2023 à Kinshasa à l'issue de l'atelier de restitution et de validation présidé par le ministre du portefeuille Adel Kaïnda. Évalué à plus de 450 millions, ce plan a été élaboré l'année dernière par le COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Ce en collaboration avec le Conseil présidentiel de veille stratégique et le Conseil d'administration de la MIBA. Explication Esther Dalafina.
Le nouveau plan de relance de la MIBA est fixé à 450 millions de dollars pour une période de 5 ans. 149 millions doivent être décaissés en première phase. À côté de cette enveloppe, un plan d'investissement de plus de 160 millions de dollars a été aussi validé pour accompagner la relance de la MIBA pendant 3 ans, dans lesquels 35 millions de dollars seront décaissés en première année. Cette nouvelle est saluée par plusieurs habitants du Kasaï oriental. Certains restent encore sceptiques car les dates pour le décaissement de ces fonds n'ont pas été communiqués. Certains habitants souhaitent que ces fonds soient libérés le plus tôt possible pour permettre aux autorités de la minière de Bakwanga d'acquérir les nouveaux outils de production adaptés à l'exploitation minière. D'autres, par contre, demandent au ministère de tutelle de mettre de garde fous pour que les fonds soient utilisés à bon escient. Signalons que les habitants de Mbujimayi n'ont cessé de mener un plaidoyer populaire auprès du chef de l'État pour la relance de cette entreprise considérée comme poumon économique de la province. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Sénégal. Plus de 800 kg de cocaïne ont été saisis sur un navire au large de Dakar par la marine sénégalaise, a annoncé mardi la direction des relations publiques des armées sénégalaises, DIRPA. Cette saisie a été réalisée par un patrouilleur de haute mer de l'armée à 335 km au large de la capitale Dakar, a précisé dans un communiqué la DIRPA, sans donner des détails sur le navire intercepté, son équipage, son point de départ ou la valeur de la cargaison. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, Mimi Kindou à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.